7h.
France Inter. Nicolas Demorand. Le 7-9.
Bienvenue sur France Inter, bonjour à tous, nous sommes le vendredi 7 mai. Bonjour Agnès Soubiran.
Bonjour.
À la une de l'actualité ce matin, la course au rendez-vous pour une vaccination anti-Covid. Après l'ouverture de la campagne aux plus de 50 ans annoncée hier par le chef de l'État, se pose la question d'autoriser le vaccin AstraZeneca aux moins de 55 ans. La question divise, on va le voir Agnès, après les autres titres.
Le samedi, c'est le jour des Parisiens à Orléans, le jour des visites immobilières. Immobilière avec un marché qui s'emballe, le Rassemblement National qui se frotte les mains en PACA, Emmanuel Macron l'Européen, sommet social aujourd'hui et demain à Porto, et puis le routard s'achète désormais en kiosque avec un magazine pour redécouvrir la France.
Invités et rendez-vous d'Inter ce matin à 7h45, le débat éco. Thomas Piketty, Dominique Seux débattent ce matin du divorce de Bill et Melinda Gates, milliardaires et surtout philanthropes. À 8h20, le grand entretien de la matinale sur la crise au Liban avec trois invités à Paris, à Beyrouth. Nadim Houri, Karim Émile Bitar, Sarah El Yafi. Participez au débat, intervenez 01 45 24 7000.
France Inter.
Essayez une première fois, réessayez quelques minutes plus tard, puis changez de centre de vaccination pour retenter sa chance. Surchauffe en vue sur les applis qui permettent de prendre rendez-vous pour une première injection de vaccin anti-Covid. L'annonce hier par le chef de l'État de l'élargissement de la vaccination aux plus de 50 ans dès lundi et à tous les adultes dès mercredi s'il reste des doses en fin de journée provoque un afflux de connexions sur tous anti-Covid, Vitmados ou Doctolib et une ruée sur les vaccins Pfizer et Moderna, puisque l'AstraZeneca reste interdit aux moins de 55 ans en France. L'Allemagne a d'ailleurs décidé hier de changer de doctrine et de proposer l'AstraZeneca à tous les adultes. En France, cette option est également envisagée. Olivier Véran a demandé à la Haute Autorité de Santé de se pencher sur la question. Véronique Julia.
Ouvrir la vaccination AstraZeneca aux moins de 55 ans aurait le double avantage d'écouler les doses qui ne sont utilisées qu'aux trois quarts et d'accélérer la cadence en vaccinant les plus jeunes. Beaucoup de médecins de ville se désolent en effet de devoir refuser l'injection à des jeunes quinquas volontaires. Leur donner malgré tout n'est pas une option puisque c'est interdit. Ce serait bien trop risqué juridiquement. Ailleurs en Europe, les pratiques diffèrent. Certains pays le réservent toujours aux plus de 60 ans. L'Autriche le donne à tous les adultes. L'Allemagne s'apprête à faire la même chose. Et le Royaume-Uni l'administre à partir de 30 ans. En France, Alain Fischer, le président du Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale, continue, lui, de penser que pour l'instant, l'analyse du bénéfice-risque pour les plus jeunes invite au statu quo.
Dans un contexte en particulier où la circulation du virus diminue, ce qui est quand même le cas en France aujourd'hui, même si elle reste relativement élevée. Et puisqu'on peut proposer une alternative qui est un vaccin à base ARN, je ne suis pas favorable à bouger la ligne de recommandation telle qu'elle est fixée actuellement.
Saisie par Olivier Véran, la Haute Autorité de Santé pourrait se prononcer sur la question en début de semaine prochaine. Sans recommander le vaccin aux plus jeunes, elle pourrait au moins faire sauter l'interdit et accorder une liberté de choix. Les patients volontaires de moins de 55 ans pourraient ainsi se faire vacciner avec Astra en signant ou pas, ça reste à voir. Une sorte de décharge, un document attestant qu'ils ont bel et bien conscience du bénéfice-risque.
Véronique Julia. Et à ce jour, plus d'un quart de la population française a reçu au moins une première dose de vaccin, soit un peu plus de 17 millions de personnes. Dans les services de réanimation, la baisse se poursuit. 5231 malades. Baisse également des hospitalisations, moins de 27 000 contre près de 30 000 il y a une semaine. Et le taux de positivité des tests recule également, passant de 7,4 à 6,9%. Les précisions hier soir de la ministre de la Culture sur la reprise des festivals à partir du 1er juillet avec au moins 4 mètres carrés par festivalier. On va s'adapter, déclare l'organisateur des Vieilles Charrues à Carré dans le Finistère. Le président du Printemps de Bourges vient lui de dévoiler sur France Inter la programmation pour le festival cette année. Pomme, Feuchaterton, Philippe Catherine, Catherine Ringer. Le détail dans le journal de 8 heures. Les confinements successifs ont, dit-on, donné des envies d'ailleurs aux habitants des grandes villes. Rêve ou réalité, la tendance est difficile à chiffrer. Mais à Orléans, c'est une réalité. Face à la demande croissante dans cette ville située à une heure de Paris, les prix ont augmenté de 6% en un an et les ventes ont progressé de 10 à 15%, à tel point que les agences immobilières viennent de réaliser leur meilleur chiffre d'affaires depuis 10 ans. Reportage à Orléans de Mathilde Hémy.
Gersonde a franchi le pas cet été. J'ai quitté Paris après 20 années dans l'événementiel et je suis arrivée à Orléans pour un nouveau métier, une reconversion professionnelle pour une meilleure qualité de vie, les services. C'est une très très belle ville aujourd'hui.
Elle travaille désormais dans une agence immobilière et conseille des néo-parisiens comme elle, qui sont plus nombreux à s'installer à Orléans. Du jamais vu pour le directeur des agences Orpival Rim, Sébastien Marquand.
Le mois d'avril 2021 est notre meilleur mois en transactions immobilières depuis 10 ans. Orléans avait réussi à contenir l'augmentation des prix, donc aujourd'hui il y a un rattrapage. Ça n'est pas une flambée comme des villes comme Bordeaux ou autres. On reste encore à des prix corrects.
Mais le prix du mètre carré s'est envolé, les Parisiens arrivant avec un fort pouvoir d'achat, bousculant les habitudes, confirme Maxime Pétel, qui dirige les agences ERA.
On était entre 2000 voire 2005 sur le haut de gamme. Aujourd'hui, on a vendu à du 3000, 3005 et pas loin du 4000 euros du mètre carré dans certains cas. Les biens partent au prix, sans négociation, et même des fois avec des profils de gens qui font sans financement. Et donc, l'Orléanais peut perdre l'affaire au profit d'un client parisien.
La ville est rentable pour les investisseurs. Avec le développement du télétravail, l'engouement pour Orléans pourrait perdurer. Les spécialistes de l'immobilier s'en amusent et ont surnommé les samedis, jour de visite, le jour des Parisiens.
Reportage de Mathilde Dehimi à Orléans.
Il est 7h06, le psychodrame des régionales en PACA. Suite Agnès.
Après Hubert Falco, le maire de Toulon, c'est Christian Estrosi, le maire de Nice, qui quitte le parti Les Républicains, déplorant, je cite, la dérive d'une faction qui semble avoir pris en otage la direction du parti. Ce n'est pas un drame, a réagi hier soir Nadine Morano, eurodéputée LR, ni une surprise. Le maire de Nice affichait sa proximité avec Emmanuel Macron depuis plusieurs années. Pas d'étonnement non plus pour le candidat du Rassemblement National en PACA et ex-LR, Thierry Mariani.
C'est une clarification, c'est-à-dire qu'on sait très bien qu'une grosse partie des Républicains, en réalité, roule pour Macron. D'ailleurs, regardez le communiqué de Christian Jacob quand il suspend l'investiture à Renaud Muselier. C'est extraordinaire. Il fait 6 lignes à 2 reprises. Il parle du premier tour, les accords avant le premier tour. Ce qui veut dire en clair qu'au deuxième tour, on peut faire n'importe quoi. Donc, il est évident que dans ces régionales comme au présidentiel, les Républicains sont condamnés à faire une force d'appoint à Emmanuel Macron. Je pense que les Républicains sont au bout d'un cycle parce qu'en réalité, aujourd'hui, ils sont d'accord quasiment sur rien dans le parti, à part gardons nos postes. Et je m'adresse, moi, aux sympathisants, militants, sincères des Républicains. Et puis, il y a quelques personnalités. Regardez ici Éric Ciotti, regardez Guillaume Pelletier, qui sont des gens qui ne partagent pas la ligne qu'est en train de prendre les Républicains. Je pense que la recomposition, elle doit se faire dans tous les sens.
Un propos recueilli par Élodie Forêt. Et en ligne de mire pour Emmanuel Macron, l'Europe. Le chef de l'État veut faire de sa politique européenne un atout majeur face au RN. Au programme de ces prochains jours, un sommet social aujourd'hui et demain à Porto, et la journée de l'Europe dimanche à Strasbourg, l'Union européenne qui a permis d'amortir les effets de la crise selon une étude de l'Institut syndical européen. Angélique Boin est à Bruxelles pour France Inter.
Pour sauver les emplois, il y a eu une sorte d'union sacrée, affirme Christophe de Grise, l'auteur de l'étude. Patronat et syndicats européens ont dû faire des propositions communes pour régler par exemple le passage des routiers aux frontières ou permettre aux 800 000 saisonniers indispensables aux récoltes de rejoindre les fermes agricoles.
Les organisations d'employeurs et de travailleurs ont émis en quelque sorte des recommandations pour assurer par exemple la protection sanitaire dans les logements, lors du transport de ces travailleurs en bus par exemple. La question était de pouvoir garantir, y compris auprès des institutions européennes et des gouvernements nationaux, que les mesures étaient prises pour pouvoir poursuivre cette activité.
Et cela sans oublier quiconque au bord de la route.
C'est la première fois que l'on peut observer cette évolution. On a constaté que les partenaires sociaux ont inclus dans leurs déclarations conjointes tous les travailleurs, y compris les indépendants, les freelance, les saisonniers, les détachés, les travailleurs de l'ombre en quelque sorte.
Une gestion de crise très éloignée de ce que l'on avait vécu après 2008, affirme encore le chercheur.
La crise financière de 2008 avait donné lieu plutôt à un détricotage du dialogue social, tandis qu'aujourd'hui, je pense qu'on est vraiment dans une situation inversée.
Reste à savoir, conclut l'étude, si cette dynamique à l'échelle européenne fera des petits au niveau national. Bruxelles, Angélique Boin, France Inter.
En bref, l'homme qui a tué un policier à Avignon mercredi soir et son complice sont toujours en fuite. La femme qui leur avait acheté du cannabis peu avant les coups de feu est toujours en garde à vue. L'ensemble des syndicats de police appellent à une marche citoyenne le mercredi 19 mai à Paris. Et puis Jean Castex devrait entériner aujourd'hui la construction de gare du métro Grand Paris sur les terres agricoles du triangle de Gonesse dans le Val d'Oise, malgré l'opposition de défenseurs de l'environnement qui dénoncent une gare installée au milieu des champs. Le Val d'Oise, Argenteuil et son Couscous Challenge. En plein ramadan, Génération Entraide a décidé de venir en aide aux plus âgés, aux chibanis, touchés par la précarité et la Covid, et de leur offrir un couscous pour la rupture du jeûne. Reportage signé Selma Rich.
Accroupi devant son camion au milieu des cagettes de légumes, Sadi Amichi, président de l'association, prépare la distribution.
Il y a un vieux, une personne âgée, donc un chibanis, qui m'a interpellé. Il m'a dit, mon fils, j'ai 80 ans, j'ai peur que soit le Covid-19, soit la vieillesse m'emporte. J'aimerais tellement regoûter ce plat qu'on mange tant en Afrique du Nord, le couscous.
Et pour le préparer, il faut aux bénévoles plusieurs kilos de légumes. Économe à la main, Samia s'occupe des carottes.
Plus de 20 kilos de carottes, il doit y avoir à peu près pareil pour les navets. Ouais, je pense que ça tourne autour de 20 kilos par denrée.
Créée l'année dernière pour distribuer à manger aux personnes touchées par la crise, Génération Entraide s'est lancée dans le Couscous Challenge à l'occasion du Ramadan. Mina, secrétaire et trésorière de l'association.
Les valeurs du Ramadan, on est complètement dedans là. Le partage, il s'agit vraiment de voir plus grand.
Alors Sadi Amichi lance un appel.
On invite toute personne qui sait faire un couscous à préparer un bon couscous et à le ramener aux chibanis des foyers près de chez eux.
Le Couscous Challenge prend déjà de l'ampleur. La ville voisine de Pierrefitte-sur-Seine a demandé à l'association d'organiser une distribution dans ses foyers.
Cuisiner pour les chibanis, c'est un reportage à retrouver sur franceinter.fr.
Il est 7h11 avec son éternel sac à dos en forme de planète. Le routard, Agnès, s'achète désormais en kiosque.
Le célèbre guide de voyage français, né il y a 48 ans, lance donc un magazine, un trimestriel. Le premier numéro est sorti hier. Première une consacrée à la France qu'on aime, car le contexte sanitaire n'est pas encore favorable au tourisme à l'étranger. Après un an de paralysie du secteur, ce nouveau magazine marque aussi, espère le Routard, le début du redémarrage. Rémi Brancato.
Dans les locaux du Routard, les guides remplissent la bibliothèque, mais dans les mains d'Amanda Keravel, en charge de la France, c'est bien un magazine dont elle est co-rédactrice en chef. 100 pages de papier glacé, pleines de bons conseils.
Il va y avoir du monde en France, et notre vocation, c'est de les emmener voir des sites qui ne seraient pas allés voir spontanément, parce que les gens, on le sait, vont plutôt aller fréquenter les bords de mer.
Au menu, un dossier Bretagne avec des plages secrètes, des menhirs à Monteneuf, moins connus qu'à Carnac, une interview du navigateur Jean Lecam. Bref, le magazine invite au pas de côté. De quoi relancer le Routard, explique son directeur Philippe Glohagen.
Grâce à ce magazine, on a pu faire travailler tous nos collaborateurs qui avaient moins d'enquêtes à faire. On ne peut voyager pour l'instant qu'en France. On y va. La France est le plus beau pays du monde. Mais nous, avec le magazine du Routard, on le prouve.
Le Routard s'est associé à l'éditeur de presse CMI après une année difficile, deux fois moins de chiffre d'affaires. Mais les guides France ont augmenté leur vente de 40%. Amanda Keravel veut tourner la page.
Nos enquêteurs aussi, ils sont quand même cloués au sol, comme les avions, depuis un an. Moi, j'ai mes lions qui sont en cage et je vais ouvrir les cages pour les envoyer dans tous les départements français.
37 équipes partent remettre à jour les guides du Routard d'ici 10 jours en France et dès le mois de juin à l'étranger.
Le magazine du Routard en kiosque pour 5,95€.
Merci Agnès Soubiran. Le zoom dans 3 minutes. Aujourd'hui, une saison encore meurtrière pour les dauphins du golfe de Gascogne.